J'ai découvert plus de 80 molécules j'ai identifiées dans cette cire de peau de tomate bio de Provence, et dont des composés très impliqués déjà in planta dans le mécanisme des défenses de la peau de fruits de tomate. Donc les triterpènes pentacycliques sont une famille de composés avec l'estérol qui défendent la plante, en fait, ils défendent le fruit.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, on va parler de tomates avec Phoenix en Provence, l'entreprise qui m'a permis d'enregistrer cet épisode. Docteur en chimie, Leila Falcao est devenue entrepreneur en développant sa première entreprise, Innaturals, avant de cofonder Phoenix en Provence pour développer des ingrédients innovants issus des coproduits de la tomate bio de Provence. Pourquoi cette tomate plutôt qu'une autre ? Comment Phoenix en Provence réussit-elle à innover alors que la tomate est l'un des végétaux les plus étudiés au monde ? Leila Falcao nous parle de son métier, de sa passion pour la recherche et nous explique comment elle a mis au jour trois ingrédients cosmétiques, dont un inédit et très prometteur, issu de la peau de tomate. Et vous verrez qu'au-delà du développement d'ingrédients, c'est toute une filière agricole qui bénéficie de l'upcycling au profit de l'industrie de la beauté. Un véritable cercle vertueux est en train de se mettre en place. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Leila.
Bonjour Chantal.
Quelle est la spécialité de Innaturals, ton entreprise ?
Innaturals, c'est une société de recherche, développement et de conseil aussi que j'ai créée en 2018. C'est une société que j'ai créée avec une ambition. C'est une ambition qui est toujours d'actualité. C'est mon ambition d'accélérer l'innovation de lancement, de mise sur le marché d'ingrédients naturels innovants.
Ok. Et alors, comment est-ce que tu travailles ?
J'ai deux axes de travail. C'est la recherche externalisée, donc la recherche à demande.
C'est-à-dire qu'une entreprise te contacte, te dit « je veux un ingrédient » et tu fais…
Voilà, ça peut commencer par là. Des fois elle a la plante, des fois elle n'en a pas. Des fois elle a le sujet, elle veut la plante. Des fois elle a la plante, elle veut le sujet.
D'accord, ok. Ah oui, donc c'est très vaste.
Ouais. Oui, ça peut commencer. Il n'y a pas le début, il peut être par la fin peut-être ouais. Le début. Ouais. Ça dépend vraiment de l'objectif de projet. Des fois les entreprises ont déjà plein de sourcing de filières développées et elles veulent varier, elles veulent innover et ça ne va pas assez vite par les systèmes de management de l'innovation à l'intérieur de leur entreprise.
D'accord. Donc toi, tu fais la R&D, la recherche et développement externalisé.
Ouais, c'est souvent des projets très stratégiques, des projets qui ont un besoin de timing assez rapide. Et que le PDG, souvent le CEO, il souhaite vraiment accélérer, il passe par l'extérieur pour aller un peu plus vite dans les stage gate de démarrage de l'innovation.
Voilà. D'accord. Et ton deuxième axe de travail, c'est quoi ?
Alors, mon deuxième axe de travail, c'est la création. Donc, j'ai créé des ingrédients propriétaires. Donc, ce sont des ingrédients que je cherche moi-même à partir de coproduits agroalimentaires. Dans ces cas précis, je ne vais pas aller chercher une plante de l'autre côté du globe. Moi je me suis imposé cette contrainte-là. Je voulais faire avec ce qu'on a.
Okay.
Et moi, je vis à Avignon depuis 14 ans, dans la Provence. Donc, du coup, je sais que la Provence a un terroir reconnu à l'étranger, très souhaité, très apprécié, très connu en cosmétique notamment, mais pas que. Et je voulais valoriser des coproduits issus de l'agroalimentaire produits en Provence.
D'accord. Alors justement, tu t'es intéressée à la tomate. Pourquoi la tomate ?
Alors, c'est la question que tout le monde me demande. C'est marrant que tu passes par là, parce qu'il faut passer par là. C'est la question qui revient souvent. Je ne cherchais pas à travailler avec la tomate, vraiment. J'ai cherché une plante qui avait une production annuelle suffisante pour pouvoir faire un ingrédient innovant en cosmétique ou bien un autre cosmétique ou un autre aseutique. J'étais là, dans cet état d'esprit.
Ok.
Et le président de la Chambre d'agriculture de PACA, qui s'appelle André Bernard, il a su que j'avais acté mon ancien employeur, qui était une grande multinationale de B2B, qui s'appelait Naturex. Elle était à l'époque vendue à un grand groupe suisse, qui s'appelle Givaudan, où tout le monde
oui,
le connaît.
Bien sûr.
Et du coup, moi, à ce moment-là, que l'entreprise a grandissé encore plus, j'ai décidé de quitter la société pour monter mon propre business. Parce que je sentais déjà que j'avais cet atout de réussir à faire vite l'innovation et que dans une grosse société, je n'allais pas pouvoir le ouais. déployer avec les contraintes d'une très, très grosse société. Mais aussi, c'est une contrainte pour certains. Moi, je ne veux pas dégrader l'image des grosses sociétés, ce n'est pas l'objectif, mais... Elles ont beaucoup d'atouts, de sécurité, de contrôle
de
qualité,
moyens.
Des moyens. Voilà, il y a plein de choses qui c'est super intéressant. Il y a aussi des contraintes. Je fais le poids et pour moi, c'était plus important de pouvoir accélérer l'innovation. Et je ne me voyais pas accélérer l'innovation dans un groupe géant.
Ouais, ouais.
Donc j'ai dit, je peux être un électron libre qui sait faire et qui peut aider les gens, les gros groupes, les moyens, ou même les petits, à aller un peu plus vite dans le système d'innovation, innover dans l'arène des ingrédients naturels.
D'accord.
Du coup, le président de la Chambre d'agriculture m'a approché, et il m'a dit, je sais que tu as quitté Naturex, tu ne veux pas innover, c'était en 2018 ça. Mmh. Il m'a dit, tu ne veux pas aller chercher innover à quelque chose sur la tomate tu sais, la filière va très mal. C'était vrai que cette année-là même, c'était la liquidation de la coopérative Provence Tomate. C'était déjà une histoire qui se répétait dans le passé. Donc, c'était la troisième fois que ça se répétait. La tomate en Provence, c'est une histoire difficile. Il y a un contexte économique qui est compliqué vis-à-vis de la tomate
en
concurrence méditerranéenne, pas chère, donc il faut le dire. On n'a qu'à voir les prix sur nos rayons de supermarché. Donc, voir la tomate de France contre la tomate d'Espagne, d'Italie, ce n'est pas le même prix.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, on sait qu'on a la qualité. On a un contrôle qualité qui est irréprochable en France. C'est quelque chose qui est très, très apprécié d'ailleurs à l'étranger. Et je me suis dit, voilà, mon candidat, je voulais faire un truc avec un coproduit. Moi, j'étais pas du tout sur la tomate. D'ailleurs, parce que je savais qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de monde sur la tomate, notamment sur le lycopène, qui est un colorant, un antioxydant très reconnu, avec plus de 20 ans d'études en cardiovasculaire, antiox. Donc, je dis, mais comment je fais? Comment je fais pour innover? Dans une commodité pratiquement, c'était comme ça.
Ouais.
Mais comme j'avais déjà fait ça dans le passé, ça m'est arrivé de faire ça avec des plantes très 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 connues, très réputées, je dis mais je commence par le design de l'ingrédient, j'enlève le lycopène, je vais voir ce que ça donne.
D'accord.
C'est comme ça que j'ai commencé.
Ok.
Donc c'est vraiment... Moi, je dis toujours que c'est un travail qui, tout au début, là, quand on est dans le démarrage de trucs, là, c'est très amusant. Moi, je m'amuse beaucoup, en tout cas. Mmh. Et je me sens toujours un enfant devant un jouet, quoi. Et c'est ça que je trouve que c'est chouette. Quand on est là avec cette joie de travail, on travaille avec la joie et on est... Dans la recherche, c'est
ça.
La recherche, c'est ça, en fait. Si on écoute plein de chercheurs qui parlent, c'est un amusement, en fait. Et après, c'est une partie de moi qui est comme ça. L'autre partie, elle est très pragmatique parce qu'il faut vraiment avoir le prix, le costing use qui va avec, les études, le brevet, l'industrialisation. Donc là, je reviens sur Terre.
Ouais, j'imagine. C'est du concret.
C'est du concret. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Et du coup, pour exploiter ces propriétés-là sans le lycopène, c'était un vrai défi. Parce qu'il fallait... Je savais que le lycopène, je connaissais le mécanisme de production d'action du lycopène. par ma formation, tu sais, je suis docteur en sciences, donc en chimie. Je fais mon doctorat à Bordeaux, sous le raisin, sous le vin. Donc, j'ai les plantes, quand je prends une plante pour étudier, je le prends de A à Z. Je connais le mécanisme de production, la biosynthèse des composés. Je vais très loin jusqu'à interpréter comment ces mécanismes d'action sont importants et comment ils agissent in planta. Mmh. Et comment on peut transposer ça pour d'autres organes vivants, comme la peau humaine ou bien l'ingestion orale, hein, ouais, l'homme, le corps humain. Et du coup, quand j'ai enlevé le lycopène, c'était quand même... Mais si tu enlèves le lycopène et le bêta-carotène, c'était deux composés très, très connus de tomates. Qu'est-ce qui reste?
Ouais, c'est ça.
Eh bien, tiens, accroche-toi, je l'ai étudié, parce qu'il y a beaucoup de choses au-delà de ça. Donc, moi, j'ai découvert plus de 80 molécules que j'ai identifiées dans cette cire de peau de tomates bio de Provence. Et dont des composés très impliqués déjà in planta dans le mécanisme des défenses de la peau de fruits de tomates. Donc les triterpènes pentacycliques sont une famille de composés avec l'estérol qui défendent la plante. En fait, ils défendent le fruit des pathogènes, ils défendent le fruit des intempéries, ils défendent le fruit de la
des insectes,
de l'entrée très forte d'eau.
Ouais.
Qui peut
altérer le
ouais qui peut altérer
le
tout
fruit, puisque c'est un fruit la tomate
exactement et causer une pourriture, tu vois, donc tout ça, même au niveau de la physiologie de la plante, au niveau mécanique, au niveau biologique, il y a les triterpènes pentacycliques sont très très impliqués.
D'accord.
Et ils sont aussi reconnus dans plein d'autres pots de plantes de fruits. La particularité de la tomate, c'est qu'on a une famille de composés qui s'appelle les amyrines, une sous-famille dans la famille de triterpènes pentacycliques, et la delta-amyrine, elle est exclusive de la tomate.
Ah ok, d'accord.
On la trouve pas, au moins à ma connaissance, on ne la trouve pas, la delta-amyrine, les omères delta, ailleurs.
D'accord. Et c'est quoi son intérêt?
Ils ont plein de propriétés déjà reconnues scientifiquement, prouvées, notamment antibactériennes, antimicrobiennes, mais aussi impliquées dans des mécanismes qui, sous ce que j'ai prouvé avec notre actif Intelligine Défense, qu'on en parlera après, mais impliquées avec une propriété qui est très très sympa, qui c'est d'activer la fonction barrière de la peau.
Ah ouais, carrément. Donc elle agit sur le microbiome, c'est ça?
Elle peut agir sur le microbiome. Moi, ce que j'ai prouvé, c'est qu'elle surexprime des gènes de la peau qui sont, eux, capables de produire des peptides antimicrobiens.
Ah, ok. Wow.
Au niveau de la transcriptomique, donc c'est une étude qu'on utilise pour... on enlève la peau, on utilise un morceau de peau humaine, on peut l'enflammer, on peut l'oxyder, et on peut l'utiliser comme modèle pour étudier les effets d'un tel ingrédients de manière, on appelle ça de full spectrum.
C'est ouais, d'accord.
Quand on ne sait pas quoi chercher, on va là-dedans. En fait, c'est ça. C'est vraiment, on va chercher.
Et peut-être que quelque chose émergera.
Exactement. Ce sont des études.
Très sérendipité.
Exactement. C'est très cher. C'est des études qui aujourd'hui sont financées par des très, très grosses sociétés. Moi, je le fais parce que j'ai demandé une aide à FI, à la BPI, qui m'a accordé une subvention.
Okay.
Donc, c'est par là que j'ai démarré.
D'accord.
Sinon, ce serait pas possible. Non, ce serait vraiment pas possible. Ma taille de société, c'était très compliqué de démarrer par ça, parce que je te rappelle, c'était de autofinancement.
Ouais, c'est ça.
Donc, j'ai tout financé par mes moyens jusqu'au dépôt de brevet. Et voilà, donc on a réussi à démarrer quelque chose de très très beau et je trouve très sympa à partir d'un coproduit de Provence,
voilà,
de la peau d'un fruit emblématique.
Et alors tu as en fait trouvé trois extraits. Il y a pas seulement la cire, d'autres coproduits.
Voilà, la cire c'est l'actif. Donc c'est celle que j'étudiais le plus parce que la bibliothèque m'a amené là. Mais nous avons aussi l'huile de pépins de tomate, qui est complètement faisable aussi, et l'eau physiologique végétale issue de la cellule végétale de fruits, qui est aussi un coproduit de la transformation de la tomate. Donc, quand on concentre le concentré, le jus, oui, de tomate, ben, l'eau s'évapore, on la condense, on la récupère. Et là, on a une eau qui est vraiment... J'apprécie particulièrement cet ingrédient eau parce qu'il est déjà connu, très connu à l'étranger, hein, notamment en Asie, au Japon, en Corée, en Chine. Il y a des noms inki, ok, Chine, ces ingrédients, ils existent depuis 20 ans.
Ah oui.
Ça fait 40 ans que nous, on le jette en France, mais,
ah oui,
mais à l'étranger, ils sont vendus. Donc okay, voilà, il fallait que je trouve des opportunités là-dedans pour ça, mais c'est quelque chose qui se fait déjà, donc ça, je n'ai pas inventé la roue, tu vois.
Alors, tu n'as pas inventé la roue, par contre, toi, tu utilises une tomate qui est bio,
oui,
c'est peut-être la différence
c'est
avec...
C'est ça la différence.
Voilà.
Alors, c'est ça la différence, il te fait très bien de me le dire, parce que ça invoque quelque chose que j'apprécie beaucoup, que c'est la Provence. C'est cette terre que j'ai choisie pour appeler de mienne, parce que tu sais, à la base, je suis brésilienne, mais
ça.
Ça fait 14 ans que je suis tombée amoureuse de la Provence et d'un Provençal aussi, faut le dire. C'est aussi une histoire d'amour. Et voilà, donc du coup, c'est la Provence, elle a cette particularité d'avoir la sécheresse, le soleil, le mistral que certains détestent, l'autre l'adore. Moi, j'ai du mal, hein, je te cache,
ouais,
pas.
J'imagine.
Ouais. Faut, je pense, être née sur place pour l'adorer.
Ouais, voilà, c'est clair.
Mais ces vents là, cette sécheresse, elle a un énorme avantage au niveau agronomique, c'est que les plantes, les fruits, les légumes plantés dans ces terroirs, ils sont super sains et ils pourrissent pas.
Ouais, d'accord.
Donc, pas besoin d'appliquer beaucoup de pesticides, probablement sur plein de fruits, des légumes, pas de tout, même, on peut s'en passer complètement, c'est le cas de la tomate.
Ouais.
La coopérative CAPEL, quand elle a acheté l'entreprise en faillite, la Provence Tomate, en 2019, du coup, elle a mis tout de suite en place une ligne exclusive pour la tomate bio, zéro pesticide.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc, parce qu'il y avait du potentiel, parce qu'il y avait déjà une cinquantaine d'agriculteurs impliqués dans la tomate conventionnelle. Ils ont switché une quinzaine sur du bio.
Okay.
Et de toutes les années, cette production, elle augmente.
D'accord. Et toi, donc, c'est sur cette tomate bio que tu extrais tes coproduits.
Ouais, j'ai voulu travailler sur le bio parce que il y a une grosse demande. Le marché fait que accroître. Et surtout, parce que je voulais innover sur ces marchés d'ingrédients. Et c'est un axe d'innovation, faire du bio aussi. Parce que la tomate bio, je ne sais pas, moi, je ne vois aucun ingrédient fait avec la tomate bio. Moi, je n'ai pas encore vu la concurrence sur le bio. Parce que souvent, ce sont des... Il n'y a pas assez de volume.
Ouais,
alors,
d'accord.
Et ce qui est sympa, c'est que cette coopérative en Provence, donc elle est à Tarascon, elle détient la transformation de 80% de la tomate bio de France.
Ah oui.
Oui, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, ouais.
Tu imagines quel terroir, quoi, ouais, pour pouvoir
c'est beaucoup.
Apporter.
Alors qu'il y a que, tu m'avais dit, 15 agriculteurs sur bio. 50 qui sont en bio.
On souhaite tous les ans
augmenter.
C'est...
Mais bon, la transition, elle n'est pas évidente.
Ouais, non, mais je crois que ça peut venir parce que notre projet justement d'association, parce qu'on rentre là, du coup, c'est l'association du coup, quand j'ai déposé le brevet, j'ai été approchée la CAPL, les nouveaux acquéreurs de l'entreprise en liquidation, là, la Provence Tomate, et ils m'ont dit, écoutez, lui, je lui proposais la licence de brevet, parce que je venais de le déposer, je dis, ben voilà, j'ai un brevet, est-ce que comme me demandait le président de la Chambre, si vous voulez faire un peu plus de revenus, revenir vers votre entreprise et amener de l'argent aux agriculteurs, c'est une opportunité. J'aurais pu aller voir L'Oréal, Chantal, tu vois bien. J'aurais pu aller voir d'autres entreprises de marques cosmétiques. Mais je suis allée voir les agriculteurs parce que c'était une demande du président de la Chambre.
Ouais,
donc j'ai suivi un peu... C'était aussi mon envie de faire quelque chose qui ait un peu d'impact là où je
Bien
vis,
sûr.
tu vois.
Ouais. Un impact sociétal, pour
sociétal
le coup.
Et aussi sur le territoire. C'est un territoire que j'adore. Et franchement, voir cette pépite de tomates faire faillite 3 fois sur 20 ans, ça me faisait mal au cœur. Et j'ai dit, mais j'ai peut-être là
une opportunité.
Une opportunité.
Et alors, tu nous as parlé de la cire, de l'eau de tomate, et aussi, il y a une huile qu'on extrait
de pépins.
Pépins de tomate.
Oui.
Et quelles sont ces propriétés?
Alors, cette huile, pareil, c'est un émollient, selon la fonction INCI internationale. Il est hydratant, il est bon, c'est un ingrédient pour le soin de la peau.
Qui peut
hydrater,
qui peut remplacer une autre huile ou
oui.
Ouais.
Donc
comme quoi par exemple?
Ben comme une huile de tournesol. Justement.
On est en plein dedans.
Bon, il y a pas le même prix quand même parce que c'est pas la même quantité, on n'est pas sur une commodité
ça peut remplacer l'huile de palme aussi par exemple ou...
Oui, ouais, c'est une, il faut se dire que les huiles de graines de fruits, elles sont, il y a des différentes classes, mais elles sont plus ou moins riches en acides gras.
D'accord.
Avec une qualité d'acide gras qui varie, mais en quantité, c'est plus ou moins la même quantité.
D'accord.
De vitamine E, ce sont des huiles qui sont fortement antioxydantes et qui amènent souvent un toucher, une sensation intéressante pour les formulations, notamment des émulsions, ou bien, en ce moment, il y a beaucoup de sérums huileux.
Ouais. Et... J'imagine, alors concernant l'intelligène, qui est donc l'actif, j'imagine qu'il faut qu'il soit dosé à un certain pourcentage dans un produit pour être efficace ou...
Oui, alors l'actif, je tapais très fort, hein, Chantal, j'étais voir vraiment, même au niveau des essais, j'ai deux essais cliniques déjà faits, une étude transcriptomique en explant peau, une étude de production de protéines en RHE 3D, donc en peau reconstituée en 3 dimensions.
D'accord.
Donc c'est des études quand même très poussées, mais au-delà de ça, j'aimerais que ça se répète d'une année à l'autre.
Oui.
Et comme comme j'avais identifié les composés qui sont partie de cocktail de défense naturelle de cette eau de fruit, donc de la peau de tomate qui défend le fruit, et que je voulais le transposer sur la peau humaine, je dis, mais je vais faire comme on faisait en nutraceutique, souvent, on ne fait peut-être pas trop en cosmétique, mais quand même on peut, c'est normaliser ces actifs-là.
C'est standardisé en fait, c'est ça.
C'est standardisé, d'accord. Ça veut dire que je développais une méthode d'analyse. En collaboration avec des instituts d'État aussi et privés, parce qu'il fallait quand même isoler des molécules issues de la peau de tomate. Ça nous a pris 2 ans, cette histoire-là. Il fallait 1500 kilos de tomates pour isoler 1 milligramme de molécules, quoi.
Ah oui.
Wow. Donc on est allé. Je ne fais pas les choses à moitié, mais tu vois.
Effectivement.
Donc du coup, on est allé développer des méthodes analytiques pour pouvoir le contrôler dans l'actif, l'intelligence défense. Et aujourd'hui, on peut le quantifier. Donc quand on livre un lot à nos clients, on le quantifie dans la cire et on veut le livrer toujours le même taux. Pour que lui, il soit en cohérence avec son application pour rediluer ça dans sa formulation.
Ouais, d'accord, ok. Donc on a toujours la même quantité d'actifs, quel que soit le lot.
Ouais, on a dosé les totales de triterpènes pentacycliques, voilà.
D'accord. Et il y a besoin de beaucoup ou très peu de...
Très peu, ce très sont peu. Des composés c'est très puissants. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème dans les récoltes ou... au niveau de l'offre d'intelligène défense, quoi.
Alors, ça fait 3 ans déjà qu'on y travaille dans ces projets. Donc, on a des rendements d'extraction, d'échelle. Je sais pas, je t'ai dit déjà, mais je sais pas si j'ai déjà dit ici, j'ai fait 18 mois d'essai d'extraction. J'ai fait plus d'une centaine d'extractions jusqu'à arriver à la formulation actuelle, qui est une formulation où on utilise seulement du CO2 supercritique pour extraire la cire de la peau de tomate.
Tu peux expliquer ce que c'est, le CO2 supercritique?
Alors, le CO2 supercritique, c'est un éco-solvant, c'est un gaz alimentaire qu'on utilise pour extraire des molécules très apolaires.
Apolaire, c'est quoi?
Apolaire, c'est des gras, des molécules lipophiles.
Okay. D'accord.
Donc, c'est des molécules qui aujourd'hui, souvent, quand elles n'utilisent pas le CO2 supercritique, elles utilisent l'hexane ou l'acétadéthyl. Bon, ce sont des solvants issus de l'usine pétrolière.
Ouais, c'est ça.
Donc, du coup, on ne voulait pas. Mm. Donc, comme on est déjà dans le recyclage,
ouais,
ça serait quand même détruire l'histoire de l'ingrédient par l'utilisation d'un solvant chimique. Donc, on est allé chercher le CO2 supercritique comme solvant pour faire une éco-extraction et extraire la partie grasse de cette peau, le phytocomplexe vraiment de défense, ces cocktails de défense de la peau, qui est vraiment imbibé dans la cutine. La cutine, c'est un grand polymère qui constitue la peau de tomate.
D'accord, ok.
Donc, on est allé dans la partie intra-cuticulaire, donc c'est juste en bas. Quand on voit une tomate par-dessus, on voit la peau et c'est par le bas.
D'accord.
Donc c'est là qu'on est allé puiser les triterpènes pentacycliques. C'était beaucoup de boulot parce que ces solvants, il est aussi capable d'extraire l'olicopène qui est aussi.
Donc il faut séparer les deux.
Il fallait séparer les deux. Et moi, je ne voulais pas extraire l'olicopène justement parce que je voulais déposer un brevet. Et je déposais un brevet là-dessus. Je voulais obtenir ce brevet. Donc, le lycopène.
Oui, il n'y avait aucun intérêt. Il est déjà hyper breveté.
C'est déjà hyper breveté. Mmh. Il y a 350 brevets actifs dans le monde. Mais voilà, c'était pas là que je voulais y aller. Je voulais vraiment un truc nouveau pour pouvoir apporter autre chose. Je trouve que ça donne aussi un intérêt de reprendre les aliments qu'on connaît. Enfin, il le réinventer, en fait, le faire autrement.
Bien
c'est
sûr.
Ça aussi le message. Mmh. Tu vois?
Ouais.
Je viens de rentrer de Cosmoprof à Bologne, là, cette année. Je suis allée par la première fois et j'ai vu.
Qui est un grand salon pour les auditeurs, je dis, un grand salon cosmétique, hein, où on retrouve plein d'acteurs.
Des marques,
notamment. Des façonniers, des fournisseurs d'ingrédients, etc.
C'est géant. C'est le plus gros salon que je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais été présent.
Ouais,
c'est géant. Et il y a des salons par continent, tu vois, l'Asie, donc la Corée, le Japon, la Chine. Bon, cette année, il n'y avait pas trop de Chinois, mais il y avait beaucoup de Coréens, beaucoup de Japonais. Et ils ont déjà démarré un mouvement qui, je trouve, que nous, on va devoir suivre, que c'est un mouvement des superfoods en cosmétique.
Ah oui, oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup
donc,
là-dessus.
Donc, la tomate, elle a fait une fureur auprès des Coréens et des Japonais, je peux te garantir.
C'est bien pour toi.
C'est bien pour moi, mais c'est surtout bien pour les marques qui vendent là-bas.
Oui, bien sûr.
Parce que les marques françaises exportent énormément en Asie. Donc, moi, je trouve que c'est... Si tu veux exporter pour ces pays-là, il y a un boulevard à faire avec Domaine en France à partir des
coproduits
agroalimentaires. Ouais. Moi, je fais la tomate, mais il y en a d'autres qui font déjà des choses. Mais il y a
l'avocat, il y a plein de choses.
Eh bien, la pomme, la poire, la fraise, il y a plein de choses qu'on peut encore faire et refaire, même réinventer ces choses-là.
Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si la quantité de tomates est moins abondante ou si tout à coup, tu as une forte demande en intelligente défense.
Alors, il faut se dire que aujourd'hui, je peux produire avec une production de base, avec la quinzaine d'agriculteurs en bio qu'on a, tous les ans, on peut produire entre 8 et 10 tonnes d'actifs. C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est beaucoup pour un actif en cosmétique. C'est un grand, grand, grand succès commercial, si tu veux.
D'accord. Donc, il n'y a pas de pénurie à craindre
À cette quantité-là, pour l'actif, non.
D'accord.
Il n'y en a pas. Il y aurait, si jamais je passe, peut-être sur d'autres marchés parallèles. Tu vois.
Ah oui, d'accord.
Donc là, il faut peut-être qu'on envisage passer plutôt soit sur le conventionnel, soit encore d'autant plus merger des agriculteurs en conventionnel, en bio. Et ça, c'est notre projet aussi.
Oui, d'accord.
Okay. Donc, on veut vraiment passer de plus en plus en bio. On verra bien. On teste déjà le marché français, avec l'actif. Ouais. Ouais. Et on verra si ça prend. On peut imaginer y aller au-delà.
En développement. Et est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser cette molécule pour des compléments alimentaires, par exemple ?
Oui, oui, clairement. C'est le step 2, je dirais. Ouais. C'est la partie in and out. C'est un projet. Donc aujourd'hui, on démarre par l'actif cosmétique. J'ai cette intention. Donc, 2-3 ans, on va rester en actif. Le temps que je puisse prouver un effet en clinique, parce que tu sais, c'est un autre univers.
C'est plutôt. Voilà.
C'est l'univers que je connais très bien. Tu sais, avant, j'étais dans une multinationale. J'ai fait 350 ingrédients pour cette multinationale-là avec mes équipes. Donc, c'était la nutrition et santé. Bon, déjà, l'ingestion orale, il faut se dire, c'est pas la même réglementation, c'est pas clair. Cosmétique.
Bien sûr.
En Europe, on est plutôt réglementation agroalimentaire. Donc, il y a un tas de choses qui... Bon, c'est tout un autre univers, c'est un autre
niveau réglementaire. Donc, ça veut dire d'autres tests, etc.
D'autres tests, oui. Ouais. Là, il faut des tests qui englobent l'absorption par l'intestin, l'estomac. Donc, il faut prouver que ça passe, qu'il y a une toxicité, qu'il n'y en a pas.
Aussi.
Donc, bon, c'est de la tomate, on est plutôt tranquille là-dessus. Donc, c'est déjà un des atouts du projet, mais voilà, c'est pas du tout pareil qu'un cosmétique.
D'accord.
Parce qu'il se peut même qu'on ait des effets autres.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a les marqueurs sur la peau humaine, on sait ce que se passe, on a travaillé sur des explants de peau en transcriptomique, en protéomique, on sait ce que se passe. Quand on va ingérer cet ingrédient via oral, on aura la lymphe qui va irriguer la peau.
Ouais.
Ça sera peut-être un autre mécanisme d'action qu'on va identifier.
Bien
donc, il y a encore ça à prouver. Moi, je démarre par les études et après je lance. Tu vois,
ouais,
je
non,
fais
mais bien
pas
sûr,
au contraire.
Hein. Ouais, non, mais il vaut mieux.
Non, je fais ça parce que je trouve que c'est une usine qui a beaucoup de storytelling que j'adore. Je trouve que c'est nécessaire. Mais mon focus, c'est la science d'abord.
Ouais, ouais, bien sûr.
La science couplée à une jolie histoire qui est vraie. Mais je suis scientifique, je suis docteur, je ne pourrais pas faire autrement.
C'est
moi,
clair.
Je suis. Alors là, je suis formatée pour faire de la science d'abord, tu vois. Je ne peux pas.
Et est-ce qu'il y a d'autres actifs exploitables sur cette tomate ?
Bon, aujourd'hui, on a sorti 3. Non, je t'ai dit, c'est l'eau intelligine water qu'on appelle. L'huile de pépin, c'est intelligine huile. Et l'actif intelligine défense, c'est la cire. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on a en plus gros volume. L'intention, c'est que dans 5 ans, moi, je proposais ces projets à la coopérative, c'est qu'on puisse faire de cette usine de tomates une usine zéro déchet.
Ah, d'accord.
Donc, on a un projet de récupérer même les tourteaux de graines qui sont source d'aminoacides,
ouais.
Donc des protéines végétales, de récupérer ça après l'extraction de l'huile, donc une extraction en cascade, et qu'on utilise ça encore pour faire un autre ingrédient.
Ok, d'accord.
Donc, ça, c'est mon quatrième ingrédient. Okay. Je souhaite le sortir encore en 2022. Et en 2023 aussi, on va passer aussi sur le travail de la peau de tomate après dégraissage aussi. On va la récupérer. Donc, on a un projet déjà en cours avec un organisme d'État.
D'accord.
Que je ne peux pas signaler avant signature des contrats.
Oui, non.
Et notre projet, donc on fait tout ça en petite échelle sur le bio.
Ouais.
Et après, on veut le transposer, tu vois. On va pouvoir faire ça sur la tomate conventionnelle ou même transposer plus de tomates conventionnelles en bio pour pouvoir faire un plus grosse échelle. Et pour la fin de l'année 2023, j'ai intégré dans mon pipeline la pomme.
Ah,
Parce que le panier provençal, qui c'est la partie de la coopérative, il va aussi travailler en plus que la tomate dans son usine,
d'accord.
La pomme.
Okay. Ouais, donc
on récupérera les coproduits de la pomme de Provence et on fera... On va voir ce qu'on fera. Ben, il y a du monde sur la pomme.
Oui.
Là, surtout en France, il y a déjà du monde. Donc, il va falloir dis toujours que je me challenge moi-même pour innover. Là,
Mais qui pourrait être intéressé en fait, par les ingrédients que tu proposes?
Les marques qui valorisent leur territoire, les marques qui veulent vendre de la France aussi, donc des marques qui vendent en France, des marques cosmétiques, des laboratoires aussi,
ouais, aussi.
Françaises, et qui visent aussi l'export, parce que c'est là que les Français gagnent le plus, c'est en faisant ouais. l'export.
Pour toi, c'est là, hein, vraiment, que ouais. c'est sur l'export que, ouais. que va se jouer.
C'est 80, je vise 80% de mon marché à l'export.
Ah ouais,
ouais.
Carrément.
Mmh. Ok. On a déjà eu des échanges avec des grands acteurs de la cosmétique mondiale.
Okay.
Et on verra bien ce que ça donne. J'attends ouais. que ça bon. Marche, c'est tout. Mais... Après ton travail.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de raison.
C'est
longue ça. Vie à Intelligène, alors.
Longue vie à Intelligène, c'est ça.
Merci, Leïla.
Ben, merci, Chantal.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !